Avant Snowpiercer,
le transpersonnage, Bong Joon-ho a réalisé plusieurs films sur lesquels nous allons revenir. Par ordre chronologique, je pense que ça peut être bien d'avoir une petite lecture analytique, esthétique des films, puis dire aussi ce qu'on en a pensé. Son premier film date de 2000. On découvre Barking Dogs après une série de courts-métrages. Titre original, c'est Flanders to Guy. Je vais pas te dire les titres originaux pour les autres films. Hein. Voilà, celui-ci suffit. Qui l'a vu et qui a aimé? Ou qui l'a vu déjà, parce que c'est vrai que c'est un essai, on va dire.
Je l'ai vu et j'ai pas aimé. Je vais faire mon Yannick sur ce coup, mais on sent que c'est vraiment un premier film où il a pas beaucoup de moyens déjà, parce que c'est très limité dans les décors, etc. Ça se passe dans un quartier, dans une sorte de cité HLM, on va dire. Et on sent qu'il y a des petites fulgurances visuelles, il essaye de mettre en scène, il essaye de varier, de jouer avec l'espace, etc. Mais le scénario est un peu bancal, je dirais.
C'est un prof, enfin non, justement, c'est pas un prof d'université, ouais, c'est quelqu'un qui veut devenir prof, mmh. qui doit réunir une somme d'argent pour d'ailleurs acheter son prof et être titularisé à la faculté, qui va être ennuyé par le chien de sa voisine et va décider de s'en débarrasser. Forcément, il tue un premier chien qui se fait bouffer par le concierge. Il se rend compte que c'est pas le bon chien, ça entraîne toute une histoire où les gens vont se mettre à chercher des chiens. Comme ça, ça a pas l'air très, très fun.
Mais
c'est pas très fun, c'est vrai que c'est très... ça manque un peu de rythme. Il y a quand même deux ou trois scènes où on retrouve Bong Joon-ho. Enfin, en tout cas, on va le retrouver plus tard, mais en le voyant après ce film, on retrouve sa patte. Il y a au moins deux scènes qui sont à la suite au milieu du film, je sais pas si t'es d'accord, Jérémy.
Vas-y.
Une scène où il y a un gars qui, enfin le personnage principal qui commence à balancer un chien donc du haut du toit.
Horrible.
Le chien commence à tomber au ralenti, c'est en montage parallèle. À côté, avec on voit jumelles, une personne qui est en train de l'observer. Mmh. Quand elle voit ce geste, elle fait tomber les jumelles. Et on voit en fait la réaction des personnes qui l'observent en parallèle avec le chien qui tombe. Et donc ça crée un jeu sur la personne qui a regardé, qui va déboucher sur une course-poursuite qui est elle aussi assez phénoménale, où là il y a une gestion de l'espace qui est très 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 maîtrisée.
Voilà, c'est ce que je disais, il y a des belles fulgurances, on sent qu'il maîtrise le truc, mais même cette scène-là, il y a quelques trucs qui sont super maladroits. Le chien qui vole au ralenti...
Ah, moi j'ai bien aimé le chien qui vole au ralenti.
Mais j'ai trouvé... déjà, le film commence par par un mec qui prend un chien et qui cherche un moyen de le tuer. Mmh. Et c'est juste horrible. Il essaie de pendre le chien et tout, mais c'est juste horrible, quoi.
Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Le film commence et il essaie de trouver des moyens de tuer le chien. Donc, il essaie de le pendre dans un premier temps.
C'est censé être drôle. Non, moi, c'est censé être drôle, quoi, et absurde, ouais.
Il voit un reflet de lui-même dans la glace. Et il se dit, je peux pas faire ça, oui. À quoi je suis amené.
J'ai trouvé ça juste cruel.
Il essaye de le balancer.
Il a raison de préciser au début qu'ils ont pas tué vraiment de chien, parce que quand il essaie de pendre le chien, le chien se débat et tout, mais c'est juste horrible, quoi. Bon, donc, bah, âme sensible, ne regardez pas ce film, quoi. Amis des bêtes, ne regardez pas ce film, parce que c'est assez difficile.
C'est dans les films américains où il n'y a aucun chien qui meurt. Je ne sais pas si cette convention s'applique aussi dans les
surtout dans les films de Roland Emmerich, d'ailleurs, où ouais. C'est souvent des...
Dans les films coréens, là, les chiens prennent cher.
Les chiens prennent...
Ils sont écrasés, mangés...
Et justement, il essaye par le biais des animaux de créer des séquences un peu... des séquences un peu absurdes où, par exemple, le mec arrive habillé en cahouet rouge et qui commence à courir après la vieille pour lui choper son truc et qui saute en mode football américain...
J'ai trouvé plutôt marrant ça.
Voilà, mais ça te fait rire parce que t'aimes pas les chiens, quoi.
Exactement.
Mais ça fait rire parce que t'aimes les chiens. Voilà, il faut regarder ce film-là sur les chiens.
Voilà, mais il essaie de créer un décalage et je trouve qu'il essaye vraiment trop fort, en fait, finalement, que ça prend pas. Et on sent un petit peu, il essaie de créer une petite atmosphère à la Tati, un peu, avec avec les formes géométriques de l'immeuble, il essaie de jouer un peu,
ouais.
Voilà, une petite musique dissonante, il essaie de trouver un petit style, mais finalement, il essaye trop fort, et finalement, ça prend pas encore, on sent les prémices du cinéma, mais ça prend pas, en fait.
Bon, on va voir si ça prend avec son film suivant qui est Memories of Murder. Oui, pardon, François.
Non, j'ai pas vu, mais il y a un mélange des genres déjà.
Oui, on sent ça pas clairement, puisque il y a des scènes assez assez dur sur la réalité sociale, où le mec il est obligé de se bourrer la gueule avec son patron pour attirer ses faveurs, il est malade. Et...
Ouais, mais il y a des histoires absolument en fait,
glauquissimes, glauquissime, mais oui.
D'un gars bourré qui vomit et qui se prend un métro en pleine poire. Fin, dans le...
D'accord.
Et le couple, et même le couple qui se déteste finalement.
Ah ouais, qui est très dur. La,
la femme est enceinte et le mec est une sorte de loc, et la femme déteste son mari finalement. Mm-hmm. Et elle lui balance à la gueule sans arrêt. Et donc, il y a sans arrêt ce jeu, on retrouve vraiment le jeu de Bong Joon-ho à casser les scènes, à casser les gens et à briser un peu les dynamiques. Il est là et d'un coup, il passe à la comédie où il balance un chien par la fenêtre et on se marre. C'est marrant. Enfin, moi, je me marre pas, mais Victor se marre. Donc.
C'est un peu plus haut que la fenêtre encore.
Enfin, oui, il va en haut, il va tout en haut. Ouais,
c'est une très belle chute.
Oui. Mais c'est juste horrible. Donc passons. Ça fait rire Victor. Et puis il passe à une scène glauquissime où le mec se bourre la gueule, vomit partout et se fait arracher par un métro. Quoi. Donc, c'est...
Et en tout cas, on voit, je pense, tous les moyens de tuer un chien dans ce
mais
film.
Voilà, mais oui, c'est juste horrible. Puis il finit par l'enfermer dans le placard, la pauvre bête.
Est-ce qu'il finit par le manger quand même ?
Mais oui, parce qu'il y a le concierge qui est complètement taré et qui mange, qui fait les chiens en ragoût. D'accord. Donc voilà. Ça donne envie, hein, quand même.
Le film est disponible en DVD, oui. Il me semble. Oui. J'ai pas vérifié chez quel éditeur.
Non,
mais il est disponible en France.
Mais je suis sûr qu'en disant que on tue des bêtes, je suis sûr que les gens vont se jeter sur le DVD. Là. Les ventes vont grimper.
Donc dans ce premier film parlait d'un tueur en série de chiens.
Ouais.
En 2003. En tout cas, le film sort en France en 2004 et c'est avec Memories of Murder qu'on le découvre. Bong Joon-ho filme un vrai tueur en série. Enfin, en tout cas, plus la traque des deux policiers qui ont un peu de mal à l'attraper et qui d'ailleurs ne l'attraperont pas du tout. C'était un énorme succès en Corée. Je crois que ça a fait plus de 5 millions de spectateurs. En France, c'est le film avec lequel on a découvert Bong Joon-ho. Est-ce que c'était votre cas ? Enfin, est-ce que vous avez découvert son cinéma avec ce film ? Et quel effet ça vous a fait à ce moment-là ? Alex ?
Moi, j'ai vraiment trouvé ça... J'ai trouvé ça vraiment brillant. Déjà parce qu'en 2004, je connaissais pas du tout le réalisateur. Et c'est vrai que c'est vraiment un film... Enfin, c'est à l'inverse de tout ce qu'on a l'habitude de voir par rapport à... C'est un petit peu moins vrai maintenant, mais... Oui, bien sûr.
Non.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, le c'est un film très noir, très qui n'est pas propre, qui est vraiment... Enfin, il y a des scènes sous la pluie, dans la boue, et on est vraiment... toute l'ambiance du film est comme ça, quoi. C'est vraiment un film qui nous met mal à l'aise et puis l'histoire est brillante, enfin c'est très bien réalisé, j'ai trouvé ça très bien, quoi. C'est pas propre, ça parle d'un tueur en série, donc de toute façon l'histoire est pas censée être comme ça. Et c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve maintenant dans les séries, un peu dans les séries US, un peu classe, un peu les trucs pour adultes, quoi, vraiment les j'ai beaucoup
aimé.
Mais c'est ça en fait, pour contrer NCS, voilà, c'est ça.
Mais ça serait quoi alors comme série ? C'est plutôt The Killing ou des séries
C'est plutôt The Blacklist. C'est plutôt, je sais pas, House of Cards, c'est plutôt vraiment le truc pour adultes, le truc.
En fait, ces séries-là, quoi, surtout House of Cards ou tu citais The Killing, je trouve qu'il y a...
Que j'ai pas vu, donc je cite sans voir.
Mais je trouve que c'est plus clinique, en fait, que le cinéma, que Memories of Murder, parce que Memories of Murder...
C'est organique, ouais.
C'est organique, ouais.
Tu sens les éléments,
c'est ça.
La pluie, la boue...
Mais je te rejoins dans le... C'est vrai que ça a fait école, comme dit Victor, et ça a influencé pas mal de monde. Ils n'ont pas peur de... Ouais, ils y vont, quoi, et... Mais c'est vrai que c'est plus clinique, en fait. C'est, les séries que tu cites, je les trouve plus cliniques.
Bah, c'est assez marrant, parce qu'on peut comparer dans cette poursuite d'un tueur en série qu'on n'arrivera jamais à attraper... à Zodiac de Fincher qui a fait House of Cards. Et Zodiac a un côté très presque mathématique par rapport au film de Bong Joon-ho qui part vraiment dans tous les sens et qui est très différent sur un sujet assez similaire.
Ouais, parce que ça. Enfin, moi j'ai l'impression que Zodiac, ça parle beaucoup d'une obsession.
Ouais, c'est ça, c'est un film sur.
Qui est un thème récurrent dans le polar et chez
Fincher.
Chez Fincher. Et que là, avec Memories of Murder, on est plutôt dans l'introduction d'un tandem de clowns, presque. Vraiment, je trouve que c'est son film où il mélange le plus les genres. On a vraiment un tandem grotesque, plus qu'incompétent, qui fait que casser les codes du polar. En trafiquant les preuves, en les fabriquant, en allant aussi se faire aider par une médium, mais même là, la course-poursuite foire, tous les attributs, tous les symboles forts de l'enquêteur et du polar sont traduits de façon grotesque en fait. Et tout en laissant effectivement ce côté poisseux et très très noir du polar qui fait que. Moi j'ai adhéré complètement en fait, parce que je me suis dit ça ressemble à ça, la vraie vie finalement, alors qu'on est quasi dans la parodie du vraiment... polar, mais
ouais. Je rentre bien plus dans l'idée du polar à travers ces deux anti-flics.
Je suis d'accord.
Je trouve ça vraiment génial.
Tu t'identifies plus, tu dis ils sont humains, tu dis peut-être que moi aussi j'aurais fabriqué des preuves, peut-être que moi aussi je serais allé voir une médium, ce genre de choses. Et je sais pas, tu dis que les mecs ils. Tu t'imagines que ça se passe comme ça dans la vraie vie et que, en tout cas en 1900, enfin à l'époque,
oui, c'est, vrai que
c'est tiré d'un fait divers.
Ouais, c'est un film d'époque, ouais.
Ouais, et puis c'est la Corée des.
Enfin, c'est la Corée des années 80.
Exactement.
C'est une dictature. Qu'on n'imagine pas. Enfin, il y a vraiment une très grande différence entre la Corée des années 80 et la France des années 80. Ça n'a vraiment rien à voir. Le régime n'était pas le même. C'est une dictature. Et la police n'est pas la même. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup d'évolutions en Corée du Sud. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas trop transposer les années 80 en Corée du Sud et les années 80 en France. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, je m'identifie. Enfin, l'idée que je m'en fais, en tout cas, je m'identifie plus au personnage dans le film. Enfin, en tout cas, la police dans ce film. Que ce qu'on peut voir à longueur de temps en France, aux États-Unis, ce genre de choses. Et c'est vrai que.
Ouais, qui est plus lisse et plus policé, quoi, justement.
Ils prennent la figure de. Parce que c'est des flics un peu. C'est des anti-héros, quoi. C'est des flics un peu. Et en fait, il en fait des personnages plus terre à terre, quoi. Plus.
Moi j'ai l'impression à l'inverse. Enfin, on a l'impression que c'est des anti-héros et on rentre dans leur enquête par le rire parce que. Ils marchent sur les scènes de crime, ils passent leur temps à bafouer ce que même nous on connaît à travers les séries américaines.
C'est des charlots quoi.
C'est des charlots, mais après on se rend compte finalement ils luttent contre une hiérarchie, qui sont vraiment eux aussi obsédés par leur enquête, et que finalement ils souffrent vraiment de l'échec, et on rentre dans leur enquête par le rire, et puis finalement on est. Enfin la fin elle est tétanisante, et on l'est avec eux quoi.
Je sens qu'Yannick n'est pas d'accord sur Memories of Murder.
Mais je suis d'accord sur pas mal de choses qui ont été évoquées. C'est vrai que les personnages sont très humains. C'est vrai qu'on peut s'identifier à eux, mais c'est chiant. Je veux dire, il y a effectivement beaucoup de tentatives d'absurde pour rentrer dans l'enquête, etc. Mais aucune de ces tentatives-là m'a fait ne serait-ce que sourire. Finalement, tout le film, il se passe rien. On les voit marcher, on les voit effectivement, ils trafiquent 2-3 preuves et tout. Oui, c'est très humain, mais c'est long et chiant. Et personnellement, moi, j'ai pas trouvé la fin tétanisante. Pour moi, la fin, même si du coup on reste dans le côté fait divers, parce qu'effectivement c'est tiré de quelque chose de réel, pour moi la fin rend plutôt vain tout ce qu'on a vu précédemment. Il aurait peut-être mieux valu qu'il fasse un documentaire que ça, quoi.
Je suis pas d'accord du tout. Enfin, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où en mélangeant ces genres-là, moi j'ai l'impression qu'il emprunte au conte sans arriver à la morale et que moi j'aime bien par rapport à l'aspect politique qui passe de film en film, moins dans le transpersonnage, même si, mais bon, moi j'adhère moins. Mais à travers le côté documentaire, je pense qu'il n'aurait pas du tout dit la même chose. Il aurait parlé d'un échec, d'un manque de moyens, d'incompétence.
Puis là, il y apporte son ton
Et oui, mais pour moi, justement, le problème du ton, c'est qu'il est chiant.
Oui, mais il est chiant pourquoi?
Je comprends tout à fait. Et effectivement, le côté politique, ça je l'ai quand même perçu. Mais moi, je comprends ce qu'il a essayé de faire. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. Mais j'ai absolument pas été touché. Personnellement, je me suis emmerdé tout le film.
Moi, je comprends ce qu'il veut dire. C'est vrai que c'est très différent d'Astérix chez les Bretons. Et du coup, je comprends qu'il puisse ne pas adhérer à ce concept.
Ouais. Après, c'est vrai que l'ennui est de toute façon un sentiment très, très subjectif qui nous explique. À mon sens, ça fait pas d'un bon film ou d'un mauvais film le fait qu'on s'ennuie. Mais ça, c'est un autre débat. Et bon, j'imagine que tu as un peu cette perspective, Yannick, sur toute la filmographie de Bong Joon-ho, vu qu'il manie... effectivement, enfin, il joue avec les codes narratifs dans tous ces films qu'il déconstruit un peu, même complètement. Il joue avec les ruptures de ton sur un humour sur lequel tu n'es pas sensible. Donc, comme on va parler de The Host, j'imagine que The Host t'a fait le même effet. Donc.
Je me suis pas ennuyé devant The Host parce que The Host, il y a quand même, il se passe des choses, il y a de l'action. Après, je trouve le film pas très intéressant. Mais non, là c'est pas de l'ennui. Pour moi, The Host, bon, il y a une jolie bestiole. Je trouve par exemple, par contre, les personnages principaux vraiment complètement ratés. Je veux dire, je les supporte pas. Je trouve qu'ils sont mal écrits, qu'ils sont vraiment trop caricaturaux. Et toute la thématique sur la pollution, etc. Bon, venir en 2000 avec un message pareil, voilà quoi.
Bah, Del Toro, il le fait dans Pacific Rim un peu.
Ouais, après, c'est pas Del Toro comme peut-être Bong Joon-ho est un cinéaste plus politique. Bon, on en parlait pour le transpersonnage qui dans lequel il y a un aspect politique qui est évident vu que c'est une lutte de classe sociale. Mais c'est finalement pas l'aspect qu'il choisit de mettre en avant dans le transpersonnage. J'ai l'impression que ces messages politiques sont plutôt en creux, et c'est plutôt l'esthétique qui est extrêmement important, et le jeu sur les genres qui va essayer de tordre de film en film, qui lui permettent de faire passer ces idées. Et Ezio, c'était particulièrement frappant par rapport au jeu sur les films de monstres. Est-ce que vous avez aimé, vous, Ezio, ou...
Ouais, moi, j'ai en pointillé, mais beaucoup aimé. Pas tout, mais... Je trouve qu'il y a des longueurs, mais presque moi c'est à l'inverse, parce que les longueurs c'est quand il y a le monstre, paradoxalement, même si effectivement je le trouve très bien fait. Mais je trouve que les personnages sont plus archétypaux que caricaturaux en fait. Du coup,
oui, archétypes, ouais.
Dans tous ces films. Du coup, moi cette petite cellule fonctionne, pour moi elle fonctionne, voilà, j'adhère au symbole que chacun de ces personnages véhicule.
Mais donc, dans le transpersonnage, le fait qu'il parle plus d'archétypes, notamment du cinéma américain, que de personnages écrits, t'a plus dérangé que dans The Host, parce qu'on pourrait reprocher la même chose à The Host.
Ouais, peut-être dans le transpersonnage, je voyais que des archétypes, tu dis par exemple, d'une transposition. Là, je voyais des archétypes dans une société, il y a des choses évidentes, il manque la mère, il y a la bête, il y a le père qui est incompétent,
c'est un beau film sur la famille, quoi.
Il y a plein de choses qui disent sur la famille, sur la société à travers ça, sur... Donc, voilà, moi j'ai voyagé dans ces archétypes et pas dans le transpersonnage.
Sur la Corée des losers, en plus, quoi, c'est un peu la Corée des perdants, quoi, que Bong Joon-ho, il monte dans le film.
Déjà dans Barking Dogs et dans Memories of Murder, on trouve...
Il s'attache vraiment à filmer les losers, ouais. Quoi. Ils sont tous l'autre qui a peur de tirer à l'arc, où il y a des lâches, il y a un peu de tout ça, et il crée une dynamique entre ces personnages qui est assez belle, en fait, finalement. Ouais. C'est pas un film de monstre, en fait, c'est un film sur la Corée, en fait.
Ouais, c'est un film sur l'accouchement, enfin aussi sur l'accouchement d'une famille, mis en image littéralement aussi à la fin avec les deux enfants. Mmh. Le père qui se révèle à lui-même au bout d'un long, beaucoup d'aventures, beaucoup de traumatismes. Donc je sais pas, moi c'est tous ces sous-textes en fait qui m'ont beaucoup parlé. Je me suis amusé à voir les symboles, effectivement la lance à la fin avec le monstre.
Là aussi, il y a cet aspect.
C'est le dragon.
À la fois très organique, qui peut être très réaliste, avec un jeu sur les codes, et en même temps, tu parlais du,
Tu parlais du conte dans Memories of Murder. Là, effectivement, il joue avec d'autres symboles. Dans Transpersonnage, on trouve ça. Enfin, ça, il y a un aspect réaliste au début du film où on nous dit, contrairement à la bande dessinée, ça se passe en 2031, il y a tel virus qui a infecté la couche d'ozone. Et donc, on est dans des faits très, très précis. Mais finalement, on se détache de ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus conte, sans l'aspect moral non plus, ouais. dans le transpersonnage.
Moi pour ma part, je suis pas un grand fan des films avec des gros monstres, que ce soit les aliens, ce genre de choses, et du coup j'ai beaucoup moins accroché. En soi, il y a un gros monstre, c'est terrible, qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. Et parce que je trouve qu'en fait, à chaque fois, tout n'est pas mis en action pour tuer le monstre. Enfin, c'est pas non plus une invasion du
Après, c'est ce qu'on disait, enfin, le monstre est plus symptomatique de choses qui se passent dans la famille ou dans la société coréenne.
C'est un révélateur.
Dans Alien aussi, c'est le cas en même temps. Donc tous les films de monstres sont plutôt des films métaphoriques sur un élément perturbateur et révélateur, comme
ouais. J'ai pas accroché, ça m'a, enfin, c'est passé tout seul, parce qu'effectivement on s'ennuie pas spécialement, il y a le monstre, tout ça, etc., etc. Mais l'histoire est pas dingue, quoi. Enfin, ce qui me fait beaucoup accrocher dans un film, en dehors du côté graphique de celui-là, c'est vraiment l'histoire. Et là, pour le coup, j'ai pas trouvé ça. Enfin, ça m'a pas touché. Voilà.
Quand tu parlais, François, justement, parce que moi, c'est vrai que Bong Joon-ho me semble un réalisateur, plus un plasticien en fait qu'un narrateur. C'est-à-dire, il va raconter une histoire à travers des éléments visuels. Tout à l'heure, quand tu parlais de chercher des éléments scénaristiques, tu pensais à quoi dans ces films?
Visuellement, tu dis, ou de manière générale?
Je crois, alors il me semble, mais je me suis peut-être trompé, que tu t'avais dit que tu avais revu Memories of Murder pour chercher des éléments de scénario, en fait.
Ouais, c'était par rapport à cette façon dont lui déconstruit le polar. Parce que c'est quasiment une façon de voir en négatif tout ce qu'il faut plus faire dans le polar. Parce que c'est marrant, dans tous ses films, même dans The Host, il nomme les choses quand les personnages ont besoin de... Par exemple, dans The Host, ils ont besoin de tracer le téléphone. Et toujours, il va dire, bon, voilà, alors comment ça se passe? Tu fais, oh, mais c'est pas très compliqué, ça se passe comme... Enfin, tout est bazardé tout le temps. Et moi, j'aime beaucoup sa façon, même dans Memories of Murder ou dans The Host, dont il déconstruit à chaque fois les corporations, les hiérarchies et les petits intérêts personnels, en fait. Tout est toujours corrompu, c'est très difficile de passer d'un étage à un autre. Les promesses sont toujours dégonflées. Enfin,
c'est récurrent dans tous ces films. De toute façon, même Mother, quand tu vois elle se bat. C'est le combat d'une mère, quoi. Et là, c'est pareil dans The Host ou dans Memories of Murder. Ouais, il y a toujours des obstacles et des obstacles. Bah, transpersonnage aussi, d'ailleurs. C'est ça. Une histoire à chaque fois. Ils sont freinés.
Mais ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, il en profite pour être dans la critique. Ce que je retrouve pas dans le transpersonnage. Et là, moi, donc, quand j'allais voir le polar, quand j'allais voir un polar pour Memories of Murder, pour voir comment il le traite, c'est la même manière que tu regarderais The Host pour voir comment il travaille un film de monstre, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il te met tous les ingrédients, mais qu'il les déconstruit un par un. Même le médium, qui est un élément qui revient dans le polar, je pense à David Peace, par exemple. Là, ils y vont, on se dit que le médium est foireux, mais finalement, c'est comme ça qu'ils trouvent le suspect le plus pertinent, en fait. Donc tout ce qu'il dit, c'est que tout le professionnalisme, ce qu'ils ont, tout le matériel ne sert à rien, finalement c'est la médium qui avait raison. Mais après, eux sont tellement incompétents qu'en plus. Donc là, j'ai l'impression que c'est pareil avec le monstre, c'est qu'en fait, voilà, c'est le monstre, ce que tu dis, est révélateur de services publics incompétents, d'une médecine incompétente, de circulation de l'info de non-circulation de l'info, de...
Exactement, et c'est création d'un martyr. Des éléments qui me semblent beaucoup plus intéressants que, disons, que le message basique que semble véhiculer le film sur l'écologie, c'est-à-dire que la critique se fait en creux et de manière aussi esthétique, narrative, scénaristique, quoi. Donc,
on sait que le film de monstre, de toute façon, on prend le Kaiju, on prend Godzilla, on sait que c'est une critique du nucléaire, ou qu'il y a forcément un sous-texte écologique, mais là, il va...
faut aller au plus loin pour voir qu'il parle de la Corée d'aujourd'hui, des politiques, de ce qui ne fonctionne pas. Et c'est assez subtil quand même, Bong Joon-ho, l'air de rien.
Je vais poser une question. Pardon François, tu avais un truc à rajouter sur
la mise sous tutelle de tout un pays par l'argent, on a l'impression. Voilà, quand ils sont tous dans la pièce à demander combien coûte la prime, est-ce que c'est exonéré d'impôts?
Et puis il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ils sont tous incompétents, ils sont tous cons.
Tous ces éléments de films de genre, il est rentré triviaux en fait. Est-ce que la prime est exonérée d'impôts? Je trouve que ça résume.
C'est absurde.
C'est parfait quoi.
C'est vrai, ouais, c'est vrai que c'est.